Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le podcast Orge Capital, 277e numéro ce mardi 26 mars. On est très heureux d'être avec vous. C'est une semaine de trêve internationale, mais on s'est dit qu'on devait faire un petit podcast quand même, puisque dans deux semaines à peine, il y a un quart de finale de Ligue des Champions qui débute face au FC Barcelone. On en avait parlé un peu dans le précédent podcast. On s'est dit qu'il faut qu'on se pose quand même le temps d'un podcast pour parler de cette double confrontation qui arrive en Ligue des Champions. Pour m'accompagner aujourd'hui, Yacine Amel, évidemment, coach Yacine, toujours présent. Comment ça va, Yas?
Salut à tous. Ben, ça va, merci, tranquille. Bon, on s'ennuie un peu pendant la trêve internationale, mais ça va.
Et toujours pour offrir du contenu à nos abonnés depuis qu'on est revenu. Et voilà, comme ça, on va se poser un peu tranquillement pour parler du FC Barcelone. Et qui mieux que M. Elton Mokolo pour parler du FC Barcelone? Bonjour, Elton.
Bonjour, Hugo. Bonjour, Yacine. Et bonjour à toutes les personnes qui vont regarder par United. J'espère que vous allez bien.
Eh ben, écoute, très très bien. On est très heureux de t'accueillir dans le podcast. Elton, grand suiveur du FC Barcelone. Et puis évidemment, vous le savez, vous le connaissez, hein, si vous êtes un peu dans les médias, chroniqueur à Winamax, chroniqueur au Club des 5, à Génération Laughter, hein, désormais, Elton, parce que tu as fait ta première.
Il y a pas longtemps.
Ouais. Bon, ça va, ça se passe bien cette saison, Elton.
Ouais, ça va. Disons qu'on a beaucoup d'activités. On a beaucoup d'activités. C'est pour ça que moi, la trêve internationale, personnellement, je le vis bien parce que t'as un peu moins de travail, en fait. Je sais que la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conférence League vont revenir. Donc, c'est bien d'avoir des espaces comme ça aussi.
Ouais, ça fait du bien un peu des temps de pause et de pas avoir des matchs tous les jours, parce que c'est vrai qu'avec le rythme maintenant des calendriers, c'est des matchs tous les trois jours. Donc, ça fait du bien aussi.
Ah ouais, il n'y a pas que les joueurs, en fait, hein.
Eh oui, il y a même les gens qui travaillent dans les médias et nous, on en fait partie. Et puis pour rien cacher, hein, aux gens qui sont déjà présents sur le chat, hein, je les salue. Bonjour Reggie Le Sauvage, Karine McFly, je vois des noms qu'on voit très souvent sur les lives de Paris United. On va pas mentir, hein, Yacine, on connaît Elton à côté, voilà, on est amis, hein, on n'est pas juste. On se connaît un petit peu quand même.
Exactement. Donc quand même.
On a déjà fait quelques soirées ensemble. Voilà, on va parler donc évidemment de la double confrontation. Match aller le mercredi 10 avril au Parc des Princes. Match retour le mardi 16 avril à Montjuïc. Et on va revenir sur plusieurs thématiques, hein, qui vont accompagner cette double confrontation. On parlera du Barça de Xavi, de Luis Enrique qui fait ses retrouvailles avec le club catalan. Parler de la Masia également. Bref, il y a plein de sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Mais avant de commencer le podcast, Yacine, est-ce que tu peux nous mettre le petit visuel, s'il te plaît, puisque on vous a parlé depuis notre retour avec Paris United du fait qu'on allait vous proposer une formule d'abonnement payante très bientôt. Et ben, ça va arriver. On va la lancer le 1er avril. Donc, pour débriefer un classique, puisqu'il y a Marseille, Paris Saint-Germain dimanche soir. Et donc, on débriefera ce match évidemment dans le podcast Orge Capital. Et c'est à ce moment-là, lundi prochain, que l'on lancera cette fameuse offre d'abonnement. On vous en a déjà parlé avec plusieurs contenus. Alors, le podcast, comme vous le savez, restera gratuit sur YouTube. Donc, il n'y a pas d'obligation de s'abonner. Mais si vous voulez nous soutenir dans les différents contenus qui vont arriver, moi, j'ai le programme des émissions, hein, qui vont arriver, qui vont être publiées au mois d'avril. Je ne peux pas vous le dire, évidemment. Il faudra suivre, évidemment, les réseaux sociaux de Paris United. Mais il y aura une émission premium dont on vous a parlé, qui a déjà été enregistrée, qu'on va vous livrer en avril. Il y a une interview, vous l'avez vu, hein, vous voyez dans le petit visuel, un entretien avec une figure du club qui a été tourné avec Clément Pernia et Théo De Santi qui était sur place, qui va arriver évidemment aussi en avril. Voilà, d'autres propositions aussi exceptionnelles qui s'ajouteront au cours de l'année avec des événements live, des quiz, des cadeaux, on vous en a parlé. Et la minute coach de Yacine. Yacine, normalement, tu as prévu ta minute coach entre les deux quarts de finale. Allez, retour.
Ouais, c'est ça. Après le match aller, quoi, pour voir déjà ce qui s'est passé, et c'est de se projeter sur le match retour, parce que les huitièmes de finale, il y a trois semaines entre les deux matchs, mais les quarts de finale, demi-finale, il y a une semaine. Donc voilà, ça permet de faire ça rapidement et entre deux matchs et se projeter direct sur le match retour. Donc c'est, voilà, c'est prévu pour l'entre-deux matchs.
Et puis Yacine, voilà, il y a quand même des choses à débriefer tactiquement cette saison avec Luis Enrique, un peu plus que sous Christophe Galtier.
Un peu plus. Beaucoup plus. Quoique non, en fait, quand il y a des choses qui vont pas aussi, il y a débriefer, donc c'est bien. Mais disons que c'est plus intéressant de débriefer ce qui se passe cette année, quoi.
Bon, il y a déjà des messages, hein, pour toi, Elton. Yo, Elton, El Grande Elton. Voilà, et les gens, ils sont contents. Elton, il est partout, After Food, Paris United, etc. Donc voilà, les gens sont très contents que tu sois avec nous aujourd'hui, Elton. Et
merci,
on te remercie d'être avec nous. Alors voilà, la photo. On a enregistré déjà, je vous le disais, l'émission. Voilà, on a customisé un plateau vers Ivry. On a des locaux et on remercie, je vous verrai, Motaïba Studio pour nous permettre d'enregistrer dans de très bonnes conditions. Vous voyez l'équipe qui a fait les premières émissions mensuelles avec Clément, avec Jean-Baptiste, avec Mousse et avec toi, Yacine. Voilà, c'est un petit aperçu de ce que vous pourrez voir de ces émissions qui arrivent très prochainement. Donc, on le rappelle, qui sera lancé lundi prochain. On vous mettra toutes les informations, le lien directement pour s'abonner. Voilà, petite parenthèse faite. On va revenir à notre sujet du jour avec donc cette double confrontation qui arrive face au FC Barcelone. Pardon. Premier thème, première thématique sur ce match aller. Déjà, Elton, quand on a vu le tirage, est-ce que pour toi, tu t'es dit que c'était une affiche équilibrée ?
Oui, c'est une affiche qui est équilibrée parce que si tu veux, c'est deux équipes qui se ressemblent. Au final, c'est deux équipes qui sont imparfaites. Pour moi, c'est le premier mot. C'est deux équipes qui sont dans une transition qui ne dit pas son nom. Le Barça, parce qu'on sait que Xavi devrait partir. Bon, même si Laporta donne une interview à Mundo Deportivo, ne désespère pas de voir Xavi revenir sur sa décision. Mais il y a une transition, notamment par rapport à la réalité économique du Barça. On réfère toujours à ce qu'a dit Laporta en disant que là, il n'y aurait pas un mercato qui serait fou parce que les finances ne le permettent pas. Et du côté du PSG, bon, évidemment, c'est des autres moyens. Mais ce que je veux dire par là, quand je parle de transition, on sait que on risque d'avoir l'après Mbappé. Donc forcément, Luis Enrique vient d'arriver. Et donc, on pose des bases pour le PSG de demain, en sachant que le PSG d'aujourd'hui doit convaincre et surtout gagner. Donc c'est pour ça qu'au final, tu arrives sur un duel où, à la différence de Manchester City, du Real Madrid, bon, même si le Real Madrid, c'est quand même des considérations qui sont différentes avec les blessures, on ne parle pas de deux équipes matures pour remporter la Ligue des Champions. Matures pour remporter la Ligue des Champions. Mais, parce que les circonstances le permettent, avec notamment un tableau, on ne va pas se mentir, qui est un peu plus ouvert d'un côté que d'un autre, et bien c'est deux équipes qui peuvent rêver. Donc au final, moi, je pense que c'est un duel qui est raisonnablement équilibré. Mais après qu'on dit raisonnablement équilibré, chacun suivant ses sensibilités mettra une équipe en avant, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Si tu veux, autant face au PSG Real Sociedad, j'aurais pu dire oui, effectivement, il y a un écart qui est pour le PSG. Quand bien même la Real Sociedad avait terminé première de sa poule, avec notamment seulement deux buts encaissés, autant là, on est sur un quart de finale avec match retour du côté de Barcelone. Donc moi, je dirais que c'est un duel équilibré.
Yacine, est-ce que tu avais le même sentiment qu'Elton quand tu as vu le tirage ?
Ouais, parce qu'il y avait. Il y avait, je pense, en fait, dans ces quarts de finale, sur les 8 équipes, en fait, t'as une ou deux équipes au-dessus. T'en as une en dessous, qui semble être Dortmund quand même. Et puis après, t'avais les 5 autres équipes qui se valent et où tu te dis. Bon, bah, il peut tout se passer parce que le Bayern de cette saison, c'est pas impressionnant, parce que le Barça, le PSG aussi, voilà. Donc, tu avais un groupe d'équipes qui peut créer quelque chose, voilà. Mais il peut tout se passer, quel que soit l'affrontement, parce que Arsenal, c'est pareil, en championnat, ils ont la première ligue à jouer en même temps. Est-ce qu'ils ont un groupe assez étoffé pour, on a vu qu'ils ont galérer en huitième de finale aussi contre Porto. Voilà, c'est je pense qu'il y avait allez, on va dire City au-dessus. Après le Real parce que c'est une question d'histoire aussi. Et puis après t'as toutes les autres équipes qui peuvent tout espérer en fait pour aller se qualifier en demi-finale. Donc automatiquement ce duel PSG Barcelone contrairement à certaines années, par exemple, semble équilibré, en tout cas au départ.
Oui, je trahirai en disant que les supporters parisiens étaient quand même plus heureux d'affronter le Barça que de prendre le City ou le Real. Par rapport aux autres saisons où tu as beaucoup affronté le Bayern, etc., le Real Madrid, dès les huitièmes, où c'était un peu compliqué. Elton, il y a une donnée quand même dans ce duel, on parlait, est-ce que c'est un duel équilibré, par rapport au calendrier des deux équipes. Après la trêve internationale, le Barça, ils auront un seul match avant le quart de finale aller, ça sera face à Las Palmas le samedi 30 mars à 21h. Par rapport au calendrier du PSG, qui va donc affronter l'OM dimanche, il y aura une demi-finale de Coupe de France mercredi prochain au Parc face à Rennes, il y aura donc un match de championnat face à Clermont, avant donc la réception du FC Barcelone. Ça fait quand même des jours de repos en moins pour les Parisiens et un programme plus souple pour les Barcelonais, t'es d'accord ?
Oui, c'est un programme plus souple parce qu'il faut quand même recontextualiser, à savoir qu'après Las Palmas, le football de Liga, en ce qui concerne bah, justement la Liga, s'arrête parce qu'il y a la finale de Copa qui, cette année, dans la perspective de l'Euro 2024, est avancée une semaine, deux semaines en avance parce que traditionnellement, la finale de Copa arrive après les quarts de finale de Ligue des Champions, avant les demi-finales. Aller. Et donc, par rapport à ça, le football espagnol a voulu mettre la finale avant. Après, c'est vrai que le fait d'avoir Bilbao-Mallorca, et attention, je dis ça avec un très grand respect, tant Bilbao fait une énorme saison et Mallorca fait deux saisons de très bonne qualité. J'ai même eu l'opportunité de les voir sur un match là-bas face au Real Betis. Et ben, entre guillemets, ça arrange tout le monde. Et c'est vrai que le Barça, par rapport à la notion de fraîcheur physique, c'est une donnée qui est très importante parce que, en fait, quand on va parler de ce qui s'est passé de mal du côté du Barça, c'est l'enchaînement mois de janvier qui a été très compliqué, parce que tu as été à cheval quand même sur deux continents, aussi bien donc l'Espagne, mais aussi l'Arabie Saoudite avec notamment la Supercoupe d'Espagne. Et d'ailleurs, c'est pas anodin le fait de voir que et le Barça et le Real Madrid aient eu deux contre-coups suite à la Supercoupe d'Espagne. Et c'est pas anodin de voir que la montée en puissance du Barça coïncide avec le fait qu'à partir du moment où ils ont plus la Supercoupe d'Espagne, ils ont plus notamment la Coupe, et ben t'as un match par semaine avant la Ligue des Champions. Et donc forcément, Lewandowski en parlait après l'Atlético de Madrid sur DAZN en disant que forcément, tu peux beaucoup plus mettre d'intensité sur les entraînements, t'es pas sur une notion de récupération, et forcément ça aide. Quand on sait qu'avant le Barça, avant le PSG, il y a Pedri et Frenkie de Jong qui sont sur le retour. C'est vrai que le Barça ne va pas faire l'économie d'une semaine, très clairement. De là, penser que est-ce que ça pourrait jouer, je pourrais te dire par rapport aux blessures, parce que c'est vrai que on n'est jamais à l'abri d'avoir une blessure. Mais du côté du PSG, je te dirais, de par l'avance et connaissant Luis Enrique et ses fameuses rotations, je peux te dire qu'après la demi-finale, c'est rideau pour beaucoup de joueurs. Donc, c'est un avantage, mais qui sera relatif, parce qu'on parle quand même, mais c'est des gars, c'est super élite. C'est des athlètes conditionnés pour ça, pour être au combat tous les trois jours. Donc, je pense pas que ça sera un avantage très déterminant.
Yacine, tu penses, par Ekelton, par rapport au programme, je te dis, donc, il y aura trois matchs pour le PSG, pardon, avant le quart de finale aller, et un pour le Barça.
Alors déjà dans le chat, j'ai vu il y a des gens qui parlent du match reporté. C'est le match de Lorient qui est reporté entre les deux tours, je crois.
Ah c'est ça.
Voilà. Donc c'est pas avant en fait, c'est entre les deux matchs que le match est reporté. Le match de Clermont aura lieu à la bonne date, etc. Moi je suis toujours partagé là-dessus parce que j'ai en tête. J'ai en tête deux exemples qui contredisent un peu tout ça. C'est que quand le PSG avait affronté la première fois Chelsea avec l'élimination sur le but de Dembaba, Paris avait eu une semaine presque trois jours de plus pour préparer le match par rapport à Chelsea. Et finalement, c'était fait éliminer. Cette même saison, le PSG avait eu une seule fois une semaine pour préparer un match, c'était Lyon et Paris avait perdu. Et l'année d'après, le PSG n'avait pas eu autant de temps pour préparer, avait eu moins de jours que Chelsea pour préparer le match. Et je vous rappelle quel match c'était. C'était le fameux PSG Caen où Paris finit le match à 9,
ouais.
Avec des blessés à 3 jours du match, etc.
C'est ça.
Et finalement, le PSG se qualifie. Donc, est-ce que c'est mieux d'enchaîner les matchs? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir une semaine? En fait, je pense qu'il y a pas. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Elton disait, à juste titre, que le Barça a besoin peut-être de préparer certaines choses. Plus, le Barça a voyagé au mois de février, etc. Donc, en fait, je ne sais pas, moi, ce qui est la vérité. Ce que je sais, c'est que, malgré tout, les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Et que l'avantage cette saison avec Luis Enrique, pour le PSG, c'est que comme il fait beaucoup tourner, bah finalement, enchaîner les matchs, c'est moins dramatique que les autres années. Et je dirais même que y a un côté moins... tu sais, on est moins stressé parce que, un, il a fait tourner depuis le début de saison. Deux, il gère les temps de jeu. Trois, il y a des joueurs qui sont capables de prendre la suite. Et en fait, on est moins dans ce truc de... il y a un absent de l'équipe type. Et là, c'est la fin du monde. On ne sait plus ce que ça va donner. Paris ne sait plus jouer. Paris ne peut plus jouer. Ce n'est même pas la peine d'y aller, etc. Donc, il y a aussi ça. Donc, je pense que c'est bien enchaîné. Le seul truc, c'est que... pour finir là-dessus, sur cette histoire de match et tout, il y a le fameux match contre Lorient qui est décalé. Et là, je pense que, malgré tout, c'est bien. Parce que, entre le match aller et le match retour, il n'y a que 6 jours. Et enchaîner 3 matchs en 6 jours, je pense que ça commence à faire beaucoup, par contre. Parce que, je le dis tous les ans, mais je vais le redire encore une fois. Parce que comme l'UEFA, évidemment, il y a les droits télé et tout, mais fait jouer l'équipe qui joue le mardi, le match aller, elle rejoue le mercredi. Donc, elle a 8 jours. Et les équipes qui jouent le mercredi, elles jouent le match retour le mardi, donc ils ont 6 jours. Toujours, tu sais, la cohérence de ces calendriers. Donc, effectivement, enchaîner du mercredi, fallait rejouer le samedi après-midi, rejouer le mardi. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'effectivement, reporter le match, c'était peut-être pas plus loin.
Je vois des commentaires, par exemple, de Bien Bien qui me dit « En vrai, c'est trop dur. Hein. D'un côté, le rythme, de l'autre, les blessures. D'un autre côté, repos, mais manque de rythme, terrible. Il n'y a pas de règles. » Et il y a Lelouch qui te demande, Elton, alors, je ne sais pas si tu veux commencer à y répondre, mais on en parlera un peu plus dans la partie Xavi, mais est-ce que tu penses que le Barça pourra réitérer ses dernières performances contre le PSG sur cette double confrontation, pour donner déjà un petit élément de réponse?
De quelles performances on parle? Des performances récentes?
Récentes.
Oui,
par exemple, enfin, le 3-0 contre l'Atlético de Madrid, par exemple.
Oui, le 3-0 qui a été bien apprécié, bien évidemment, du côté de Barcelone, même si, encore une fois, j'ai tendance à recontextualiser, à savoir qu'il était question de quoi. Il était question d'un post-match Ligue des Champions, très important pour le Barça, très important pour l'Atlético de Madrid, qui, à date, n'est toujours pas assuré de se qualifier en Ligue des Champions. L'Atlético, aujourd'hui, est cinquième. Donc, aujourd'hui, l'Atlético ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, c'était un match très important. Mais pourquoi je contextualise? Parce que la nature de l'équipe, et c'est pour ça que le 3-0 a été accueilli avec beaucoup d'euphorie du côté de Barcelone, c'est que, en fait, c'était la course à l'urgence pour construire ton équipe type. À savoir que, au-delà de Pedri, Frenkie de Jong, qui étaient des absents connus, Cancelo, au dernier moment, a dû être absent parce que, voilà, il y a dû avoir des révisions médicaux par rapport à des antécédents familiaux. Christensen, a ressenti une gêne pendant l'échauffement. Donc, c'est une équipe expérimentale qui est arrivée. C'est une équipe expérimentale
qui est arrivée. Sergio Roberto, tu avais Hector Faure à gauche, ça a fait tourner, quoi, voilà.
Ouais, voilà, parce que, sincèrement, Hugo, la probabilité de voir le Barça gagner 3-0 sur la pelouse de l'Atlético avec au milieu de terrain Fermín López, Sergi Roberto, Gundogan, moi, sincèrement, je regarde énormément de foot, mais je l'avais pas vu venir. En plus, gagner 3-0. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, cette victoire s'inscrit dans une dynamique globale où le Barça est bien, ça va leur amener de la confiance. Et la réalité de cette équipe, encore une fois, va changer. La réalité de cette équipe va changer à partir du moment où tu auras Pedri qui devrait revenir. Bon, après, on parle davantage du match retour. Frenkie de Jong sur le match aller. Donc, comment le Barça va se comporter? Bah, tu auras le retour de Christensen dans ce rôle bien particulier devant la défense. Donc, je pense que, oui, cette victoire est bien reçue, mais pour moi, ça n'augure en rien de ce qui va se passer contre le PSG, parce que faut faire bien attention à la dynamique du moment. C'est vraiment ça qui m'intéresse.
Et bah c'est bien, tu nous as donné des premiers éléments de réponse, Elton, et on va passer à notre deuxième partie, justement, sur que vaut ce Barça de version Xavi en tant qu'entraîneur. Yacine, je vais me tourner vers toi en premier. C'est assez difficile de faire un bilan de Xavi au Barça version coach, parce que, pour faire un petit récap de ce qui s'est passé quand même cette saison, il y a des points négatifs avec la défaite en finale de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, 4-1. On a parlé d'ailleurs d'humiliation dans la presse espagnole, Elton, si je ne m'abuse. On a parlé également d'humiliation en quart de finale de la Coupe du Roi quand tu as été battu par l'Athletic Bilbao 4-2. Il y a eu beaucoup de médias qui ont critiqué le jeu pratiqué par Xavi. D'ailleurs, Xavi, c'est l'entraîneur espagnol qui a concédé le plus de défaites sur le banc Blaugrana, hein, donc plus que Guardiola, que Luis Enrique, 26 défaites. Et puis depuis, donc, cette une défaite contre Villarreal le 27 janvier dernier, 5-3. Ça les avait mis à 10 points de la première place. Et donc, Xavi avait annoncé en conférence de presse après le match qu'il quitterait ses fonctions le 30 juin prochain. Et puis, d'un côté, les aspects positifs, Yacine, depuis qu'il a annoncé son départ, bah, le club ne perd plus. 7 victoires et 3 nuls, toutes compétitions confondues. Le Barça retrouve les quarts de finale 4 ans après son élimination en 2020 face au Bayern. Et puis, bah, voilà, il y a quand même eu la saison dernière le titre en Liga qui fuyait le club depuis 2019. Donc, comment faire un bilan de tout ça, finalement, Yacine?
C'est compliqué parce que déjà, Xavi, quand il arrive, on a beaucoup d'attentes. Parce que, encore une fois, il y a cette histoire avec le Barça, il y a ce qu'il était comme joueur, il y a la filiation. Alors, c'est pas la filiation parce que c'est le lien avec Guardiola dans son parcours et son histoire. Pas la filiation du jeu. Il y a les interviews, les discours qu'il y a eu avant son arrivée et tout ce qu'il a dit sur le jeu. Et puis après, il y a ce qu'on a vu sur le terrain. Alors, malgré tout, il y a des résultats. Mais il y a aussi des lacunes, il y a aussi des choses qui, entre guillemets, vont à l'encontre de l'histoire Barça. Dans le jeu, il y a eu des matchs où on s'est clairement ennuyé, où c'était le résultat passé, c'était limite Didier Deschamps. Donc, c'est compliqué de faire le bilan. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il n'arrive pas dans la meilleure période économique du Barça déjà. Il arrive dans un contexte compliqué parce que le Barça gagne plus vraiment de titres. Alors oui, il y a une Liga de temps en temps, mais parce que c'est aussi le Barça. Mais voilà, cette idée à ce moment-là qu'on s'appuie moins sur, alors on en parlera après, mais qu'on s'appuie moins sur la Masia. Donc il y a un mélange de tout. Il doit refaire gagner le Barça. Il est champion, mais malgré tout, il y a des parcours en Ligue des Champions qui sont pas bons. Voilà, c'est mitigé et je veux pas dire que c'est décevant parce que c'est un grand mot, mais quand on a connu Xavi le joueur et quand on a suivi et sa carrière de joueur, et sa carrière de son début de carrière d'entraîneur et ses discours, ouais, il y a un goût d'inachevé de se dire que est-ce qu'on a vu ce que voulait faire Xavi, est-ce que finalement ce qu'on a vu c'est ce que veut faire Xavi, est-ce qu'il est à un moment donné confronté à certaines limites aussi. Voilà, c'est un bilan qui est mitigé, pas en termes de résultats, parce que je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait avec ce Barça actuel, mais plus en termes de prestations collectives et de jeu.
Avant de te donner la parole, Elton, je vais faire une petite pause like, hein, parce qu'on est plus de 400 en direct. Et là, les gars, il n'y a que 100 likes, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, si vous appréciez le contenu, on a ramené un très bel invité aujourd'hui avec Elton Mokolo, monsieur Elton Mokolo. Donc, n'hésitez pas à liker. Vous avez beaucoup de questions pour Elton. D'ailleurs, hein, je les note un peu, hein, Elton, je te les poserai juste après. Okay. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. Et je lis vos commentaires, vous inquiétez pas, je les poserai à Elton après. Elton, ton avis sur ce Barça version Xavi?
Pour moi, il y a une phrase qui est très importante et il faut la retenir. Au Barça, l'avenir, c'est le présent. Parce que c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre le Barça sans penser à cette phrase. Parce que quand Joan Laporta est élu en mars 2021, ou plutôt est élu de nouveau parce qu'il avait été déjà président entre juin 2003 et juin 2010, quand il est élu président, le Barça est confronté à une crise économique sans précédent, bon, même s'il y avait eu la crise de 2003, qui fait que la logique aurait voulu qu'on assainisse la situation économique et qu'on puisse, entre guillemets, installer une transition. Mais on sait très bien qu'au Barça, l'avenir, c'est le présent. Et donc, tu ne peux pas arriver, et notamment aussi bien par rapport à l'environnement barcelonais, mais aussi par rapport aux banquiers, tu ne peux pas expliquer le fait que les saisons à venir vont être des saisons de transition. T'es le Barça, t'es obligé de gagner. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a une course à l'urgence qui s'est manifestée avec le renvoi rapide de Ronald Koeman et donc l'arrivée de Xavi Hernandez. C'est peut-être le drame dans la carrière barcelonaise en tant que coach pour Xavi, parce qu'en tant que joueur, c'est un joueur extraordinaire. C'est que dans un Barça sain économiquement, dans un Barça puissant, dans un Barça capable justement d'investir sur le marché des transferts, de consolider son équipe première, Xavi n'aurait pas été l'entraîneur. C'est ce qui lui a permis d'être entraîneur, le fait d'avoir un Barça qui soit à la dérive financièrement, dans un Barça qui était en besoin d'entraîneur, avec notamment le fait de pas pouvoir investir aussi sur un top coach, parce que faut pas oublier que le Barça est soumis notamment aux limites, à la limite salariale de la Liga, la fameuse limite salariale imposée par Javier Tebas. Et donc, en gros, tu peux pas investir sur un entraîneur. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'identité du nouvel entraîneur est aussi soumise à cette aléa, cette idée qu'on ne peut pas investir massivement sur un entraîneur. Donc, c'est pour ça, quand j'entends parler de deux RB, je fais, les gars, il a quand même une clause. La clause, je suis pas sûr que la Liga l'accepte. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en gros, Xavi est arrivé dans un contexte où il faisait face à un Barça à la dérive financièrement, face à un Barça qui avait une équipe hétérogène sur les tranches d'âge. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait une grosse disparité entre les jeunes qui lançaient leur carrière pro, les, entre guillemets, les vieux qui étaient sur la fin de carrière, et au milieu de tout ça, il n'y avait pas des joueurs qui étaient dans la force de l'âge. Donc Xavi, notamment sur la première saison, un peu moins sur la deuxième saison, a dû composer avec ses aléas. Mais ces aléas sont revenus à l'occasion de cette saison, ou avec les blessures, et bah, il y a eu les arrivées de Kubarsi, de Yamal, d'Hector Fort qu'on va évoquer plus tard, de Fermín López, et tout ça fait que ça a eu un impact sur la compétitivité. Après, bien évidemment, pour ceux qui me suivent, j'ai pas été non plus tendre avec Xavi, parce que au-delà de la dimension esthétique, moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétitivité. Je pense qu'il y avait moyen, notamment sur la première partie de saison, de faire mieux sur cette dimension de compétitivité, parce que c'est quand même paradoxal. Les gens vont mettre en avant le fait que le Barça, à juste titre, est à 8 points du Real. Il n'y a pas non plus énormément de défaites quand on regarde au final. C'est surtout beaucoup de matchs nuls, notamment en Liga, qui ont fait que le Barça a perdu du terrain. Donc, je pense que la première partie... Hein.
3 défaites cette saison.
C'est quand même fou. 3 défaites, c'est, dans l'absolu, c'est le bilan en termes de défaites. C'est le bilan d'un champion qui est potentiel. Ce qui, quelque part, par extension, met en avant le championnat de très bonne qualité, du moins sur l'aspect comptable, du Real Madrid. Et du côté du FC Barcelone, c'est vrai que la compétitivité sur la première partie de saison, où on sait que la saison dernière, le titre de champion, acquis avec 10 points d'avance, était quand même l'arbre qui cache la forêt. Parce que oui, ok, c'est 10 points d'avance, mais il fallait aussi voir la réalité des matchs. Des 1-0 à l'arrache, une défense hermétique, c'était à un moment donné, c'était la meilleure défense d'Europe. Tu savais très bien que ça ne pouvait pas se reproduire la saison suivante, à partir du moment où l'intensité, et je dis bien l'intensité émotionnelle, le fait... Pour moi, l'année dernière, le Barça n'a pas joué 38 matchs de championnat. Pour moi, le Barça a joué 38 finales de championnat. C'est une nuance, mais elle est très importante. Et Xavi l'avait dit après... Après une rencontre, si je ne dis pas de bêtises, c'était après le Rayo Vallecano, où il ne retrouvait pas cet état d'esprit. Précisément parce que c'est impossible de jouer 38 finales de championnat. Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où c'est toujours cette idée, tu as atteint un objectif, l'objectif, c'était la Liga, quoi qu'on en dise l'année dernière, quand tu as atteint l'objectif, tu as un effet de décompression post-titre. Et cet effet de décompression a eu un impact sur ta première partie de saison. La deuxième partie de saison a eu un effet salutaire, c'est que paradoxalement, avec toutes les blessures qu'il y a eu, tu as deux solutions. Soit tu plonges, soit tu te redresses. Et c'est ce qui s'est passé, notamment pour le Barça, parce qu'ils auraient pu, ils auraient dû toucher le fond après la lourde défaite contre le Real en Supercoupe en Arabie Saoudite, après la défaite en Supercoupe d'Espagne, après la défaite rocambolesque face à Villarreal. Et c'est paradoxalement sur ce moment-là qu'il y a des cadres qui ont été à un meilleur niveau. Lewandowski, c'est pas le Lewandowski de 2021, mais c'est un Lewandowski qui est vraiment compétitif. Gundogan a encore passé un step. Christensen s'est révélé dans un poste de 6. Et tu as eu la jeunesse qui a été incroyable. Donc tous ces éléments font que le Barça attaque le sprint final avec bien plus d'optimisme qu'au mois de janvier et au mois de février.
Justement, on en parlera après de cette Masia et de ces cadres justement qui encadrent un peu les jeunes pousses de la Masia qui prennent petit à petit leur marque. J'ai une question de Mousse, hein, donc j'imagine que c'est Mousse que l'on connaît très très bien sur Paris United, qui posait la question. Je vous la pose à tous les deux. Yacine, tout d'abord, est-ce que Xavi n'est pas arrivé? Alors là, ça va mieux. C'est pour ça que c'est difficile de parler, mais évidemment, dans la dynamique actuelle, le Barça est beaucoup mieux. Mais dans le sens où, c'est vrai qu'il en a parlé, hein, Joan Laporta, du fait que peut-être il arriverait à convaincre Xavi en fin de saison que tout n'était pas définitivement mort. On verra ça, évidemment. Mais est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tôt, étant donné son peu d'expérience, Yacine? C'est la question que posait Mousse.
Je sais pas, parce que le Barça, c'est quand même spécial. Ça veut dire que, évidemment, l'expérience, c'est toujours important, mais il n'arrive pas dans un club où il doit gérer des choses qu'il ne connaît pas. Il connaît le club par cœur, il connaît la mentalité, il connaît l'environnement, il connaît la philosophie. Donc, l'expérience, j'allais dire, est-ce que Guardiola, quand il arrive sur le banc du Barça, à ce moment-là, il a plus d'expérience que Xavi. Voilà, il a une
On rappelle
expérience au
quand même
Barça.
Xavi, il avait qu'une expérience au Qatar d'entraîneur hein, avant d'arriver en novembre 2021.
Oui, mais Guardiola, il a que le Barça B. Donc,
Oui, non, mais bon. Mais il
non,
était
mais
déjà dans
voilà,
le
déjà,
Barça en tant que coach, quoi. Mais bon, oui, c'est
ouais,
effectivement.
voilà, c'est pour ça. Enfin, tout dépend ce qu'on appelle l'expérience, évidemment, mais gérer un groupe et tout, il l'avait fait, même si c'est qu'au Qatar. Donc, je sais pas, peut-être. Le truc, c'est plus. Moi, je pense pas que ce soit la question, je l'aurais pas tournée comme ça. Moi, c'est plus de se dire, est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tôt dans son parcours, pas par rapport à l'expérience. C'est dans son parcours, c'est-à-dire qu'on savait qu'il entraînerait le Barça un jour. Est-ce que c'était le bon moment pour lui, par rapport au contexte? Alors évidemment, après, tu as des gens qui vont te dire, pour Xavi, le Barça, ça se refuse pas, c'était le moment, c'était le moment. On sait que les histoires, quand tu reviens plus tard, c'est rarement. Alors il n'y a que Ancelotti qui arrive à faire des doubles passages prolifiques. En général, quand tu reviens dans un club, ça se passe pas souvent super bien. Moi, c'est plus ça. Est-ce qu'il est arrivé trop tôt, pas par rapport à son expérience, mais pour optimiser, entre guillemets, pour écrire son histoire avec le Barça?
Effectivement, tu as raison de préciser. Yacine, ça m'a fait penser un peu. Alors là, évidemment, Xavi, j'espère qu'il terminera la saison avec peut-être un titre, etc. Mais à Frank Lampard, quand il était arrivé avec peu d'expérience à Chelsea, d'ailleurs, il avait même eu un deuxième passage, bon, voilà, en tant qu'intérimaire, mais très, très compliqué.
Encore pire que le
Voilà.
premier.
Alors, le deuxième, il n'a pas duré longtemps. J'étais en train de regarder, c'était une victoire, deux nuls et 8 défaites. Ça avait été très, très court. Mais il était
Ça,
passé
déjà.
brièvement à Chelsea entre 2019 et 2021, voilà, ses anciennes gloires. D'ailleurs, ça me fait penser à Steven Gerrard, qui pour l'instant, voilà, n'est pas revenu à Liverpool, mais évidemment, on en parle un peu. Alors, normalement, ça devrait être Xabi Alonso, mais est-ce que Steven Gerrard arrivera un jour à entraîner un Liverpool comme ça, qui est au top de sa forme? Ou alors, est-ce qu'il faudra attendre comme Xabi avec le Barça, que le club soit moins bien pour qu'un entraîneur comme Steven Gerrard, qui pour l'instant a des difficultés, dans ses expériences d'entraîneur, pour prendre le club, quoi?
Pour moi, il a manqué justement, on l'a évoqué, Yacine l'a évoqué, il a manqué un Carlo Ancelotti pour Xavi. Ce que je veux dire par là, le grand entraîneur qui puisse faire office de transition, parce que quand on regarde le Real Madrid, je reste persuadé que Xabi Alonso sera le successeur de Carlo Ancelotti. Et tu regardes la planification sportive du Real Madrid, le Real Madrid a préféré prolonger Carlo Ancelotti, alors que Carlo Ancelotti est en fin de contrat. Ils auraient pu avancer l'arrivée d'un Xabi Alonso. Sauf qu'ils ont prolongé Carlo Ancelotti. Manière de dire quoi? Que, notamment dans cette idée de transition du Real Madrid, une transition qui n'en est pas une, parce que au Real Madrid, il faut toujours gagner. Avec la transition, l'avènement de la nouvelle génération, ce que j'appelle la génération 2000, incarnée par Vinicius, Bellingham, Rodrigo, il faut encore le vieux professeur, le recordman de la Ligue des Champions, accessoirement, pour les accompagner avant d'envisager l'arrivée de Xabi Alonso. C'est comme ça qu'est établie la planification sportive du Real Madrid. Du côté du Barça, tu ne peux pas le faire parce qu'il y avait des besoins immédiats. Il faut savoir que quand Joan Laporta est candidat donc à l'élection de la présidence du côté du Barça, Xavi, j'allais dire Xabi Alonso, Xavi est l'aval numéro un et la caution de Victor Font, qui était l'opposant de Joan Laporta. Et Joan Laporta, d'ailleurs, c'est ce qui est très marrant, à l'époque, quand on l'a interrogé sur Xavi, il disait ce serait bien qu'il fasse un tour en équipe réserve. Donc déjà, avant l'élection, pour rejoindre Laporta, à aucun moment, il n'envisageait Xavi en tant qu'entraîneur numéro un. Il faut savoir que quand il avait dans un premier temps voulu se séparer de Ronald Koeman à l'été 2021, il ne pensait pas nécessairement à Xavi pour reprendre la suite. Alors que Xavi, pour le coup, lui, il arrive en fin de contrat du côté d'Alsace. Et Xavi, derrière, prolonge du côté d'Alsace parce que Joan Laporta n'était pas dans cette idée-là. Bon, finalement, Ronald Koeman est resté. Mais dans l'idée de Laporta, il y avait cette idée qu'il y a un entraîneur intermédiaire qui arrive, un entraîneur un peu plus expérimenté, pour pouvoir prendre le Barça dans cette situation économique. Mais la situation a fait que, justement, par rapport à la notion économique, que Déjà, c'était très difficile de prendre un nouvel entraîneur et d'en virer un accessoirement parce que ça coûte énormément d'argent. Et donc, on a voulu continuer avec Ronald Koeman, sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des différends. Et donc, à un moment donné, quand tu n'as plus d'entraîneur, bah, qu'est-ce que tu es obligé de faire quoi? Et bah, tu es obligé de te tourner vers Xavi, qui n'était pas ta solution initiale. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le drame, entre guillemets, je dis bien le drame parce que il a quand même remporté la Liga, c'est que Xavi arrive trop tôt.
Bon, voilà, pour voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie de Xavi depuis son retour au club. Je laisse Elton reprendre sa voix.
On voilà, va passer à la... parce que, là, j'ai vu que ça commençait à partir. Mais non, là, c'est bon. Ouais.
C'est Xavi qui fait un chat dans la gorge, Elton?
Ouais, c'est au moment où j'ai voulu faire des éloges. Mais non, mais c'est ce que j'ai expliqué pour être beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. C'est que la réalité économique a accéléré l'arrivée de Xavi. Sûrement que si Ronald Koeman avait fait un bon début de saison, qu'il aurait continué jusqu'à la fin, à l'été 2022, Laporta n'aurait pas pris Xavi. Mais le football est le football. Xavi avait été dans de bonnes dispositions pour venir dès novembre 2021, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour des entraîneurs référencés. Ils n'abandonnent pas un projet, quand bien même c'est le Barça en cours de saison. Donc forcément... Pour moi, c'était pas nécessairement un mariage d'amour, c'était un mariage de raison. Et c'est aussi pour ça que Joan Laporta, notamment dans ses déclarations récentes, j'ai évoqué le fait qu'il aimerait bien que Xavi revienne sur sa décision, c'est parce que Laporta, il a de la mémoire. Il a de la mémoire par rapport au fait que celui qui a pris des risques en venant en novembre 2021, et ça, pour le coup, c'est factuel, quand bien même on peut avoir des critiques sur Xavi, bah, c'est le propre Xavi qui, alors que rien ne l'obligeait à venir, bah lui il a décidé de venir en sachant que le Barça était proche de l'élimination au premier tour de Ligue des Champions, le Barça était 9e de Liga. Donc c'est pour ça que Laporta, au moment de prendre une décision, encore plus avec un Xavi qui a remporté la Liga, donc il réfléchit à énormément de fois, pas deux fois seulement.
Et justement, le renouveau du Barça et Xavi passe aussi par cette Masia, et Yacine t'en parlait, on va passer à notre troisième thématique du podcast. Est-ce que le Barça aussi ne renouvelle pas un peu de ses cendres dans cette deuxième partie de saison grâce à ce centre de formation la Masia, avec des très jeunes joueurs qui sont titularisés par Xavi? Voilà, il fait confiance à des jeunes joueurs, notamment je pense à celui qui est le plus marquant, c'est Pau Cubarsí qui a 17 ans, Fermín López lui aussi qui gratte beaucoup de temps de jeu en ce moment avec les blessures de Jong, qui a 20 ans, Lamine Yamal voilà, qui a explosé cette saison, qui a seulement 16 ans. On a déjà vu aussi Hector Fort, voilà, qui a joué contre l'Atlético de Madrid. 17 ans, l'arrière-gauche, avec la blessure de Balde jusqu'à la fin de saison. Encadré, tout ça, Yacine, par des Ter Stegen, par des Gundogan, Cancelo, Lewandowski, qui ont l'habitude du haut niveau de jouer ces rencontres de Ligue des Champions. Et on revient un peu de notre double confrontation face au Paris Saint-Germain. Comment tu vois cette équipe du Barça avec l'intégration de ces jeunes pousses? Finalement, ça a toujours été dans sa tradition au Barça de faire confiance à ces jeunes joueurs. Le parallèle est intéressant par rapport au Paris Saint-Germain qui arrive cette saison avec Warren Zahir Emery, mais qui a toujours eu un peu de mal. Et on voit en photo justement l'exemple type de la Masia qui fonctionne cette saison, c'est Pau Cubarsí, le défenseur central.
Alors en fait, c'est très bizarre parce que des joueurs qui sont sortis de la Masia, évidemment, il y en a un paquet et qu'on joue au Barça. Et ça ne date pas des 15 dernières années. Il y a un parallèle à faire avec l'Ajax, évidemment, et je vais y venir. En fait, on a deux grands clubs européens, qui s'appuient sur leur formation. Alors, une formation qui est historique avec une vraie philosophie, c'est-à-dire qu'on ne forme pas des joueurs, on forme des joueurs à une philosophie de jeu, de mentalité, mais de jeu, etc. Et en fait, le truc qui m'interpelle à chaque fois, c'est que sur les... Là, on va prendre vraiment les 15-20 dernières années. C'est que le moment où ces équipes se servent le plus de leur centre de formation, c'est quand elles sont en difficulté. Et c'est finalement le moment où elles ont pratiquement les meilleurs résultats. Et tu as l'impression que, en fait, au lieu de s'en servir avant et de te dire bah, « c'est finalement notre ADN et on va s'en servir », alors, dans un football d'économie et tout, il n'y a pas de problème. Hein, c'est... Mais rappelez-vous que le Barça, alors, Xavi, etc., ils sont là avant, mais le summum du Barça avec Guardiola, c'est 2011. Mais en fait, C'est cette équipe issue des problèmes économiques espagnols de 2007, 2008, 2009 et qui, voilà, en gros, tu dois t'appuyer sur tes joueurs parce qu'ils te coûtent moins cher, parce que t'as pas besoin d'aller acheter, etc. L'Ajax, c'est la génération de la remise en question de la formation et aussi des problèmes économiques, en gros, de se dire, bon, on va arrêter d'acheter des joueurs en plus qui performent pas chez nous. Et on va reformer pour reformer des joueurs qui jouent chez nous. Et qui, après, nous on vend ces joueurs-là. Donc, en fait, tu as le même cheminement, alors, avec quelques éléments près. Et tu te dis toujours, comme là, par exemple, ce qui se passe depuis quelques semaines avec le Barça, en fait, pourquoi vous ne le faites pas avant? Puisque, de toute façon, quand vous le faites, ça marche. C'est votre ADN, c'est la suite de logique. Parce que, là aussi, vite fait, après, je laisse parler Elton, mais la Masia, alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus que de la formation. C'est de la formation à une philosophie, un état d'esprit et tout. Mais pour avoir déjà affronté les jeunes du Barça quand j'étais notamment à Everton Longueira, il faut se rendre compte de ce qu'est le football de jeunes. Alors au Barça et à l'Ajax, parce que j'ai fait les deux, dans la mentalité. C'est-à-dire que, je redis, on forme des joueurs à quelque chose de très spécifique. Elton aime bien parler de compétitivité. Chez les jeunes, par exemple, on ne parle pas de compétitivité dans ces clubs-là. Contrairement, par exemple, à nous en France, où tout de suite, il faut gagner en U13, il faut être champion U16, etc. On ne parle pas de compétitivité, on parle de formation à des principes de jeu forts, etc. Et on parle de compétitivité, bah, en fait, au bout du parcours, parce que là, on arrive au football de très haut niveau. Et donc, bah finalement, ces joueurs, ils sont déjà prêts à jouer et ils ont des temps d'avance sur une recrue, sur les principes de jeu, etc. Et encore une fois, bah le Barça, alors ça ne veut pas dire que ça va durer, attention, c'est ponctuel parce que le contexte et tout, mais malgré tout, dans cette saison un peu spéciale, le moment où ça marche le mieux, le moment où, où les gens qui suivent le Barça prennent le plus de plaisir et où le jeu se rapproche le plus, alors c'en est loin, mais se rapproche le plus de l'ADN Barça sur les 8 derniers mois, bah c'est le moment où tu viens de servir de tes jeunes. Voilà. Donc, c'est pas le renouveau, moi je dis, c'est la continuité, c'est juste eux qui, à un moment donné, font d'autres choix de politique, quoi.
Constat très intéressant, Elton, que nous dresse Yacine, c'est vrai que c'est dans... en ce moment dans la difficulté où on se sert de son centre de formation pour donc être dans la continuité. Mais moi, je dis le renouveau, parce que surtout dans le renouveau cette saison, parce que les Pau Cubarsí, on les a jamais vus. Bon, Fermín López, il avait déjà joué un petit peu. Il y a Lamine Yamal aussi, mais les Pau Cubarsí, je trouvais que c'était l'exemple vraiment parfait, parce que, par exemple, tu as recruté un Iñigo Martínez de Bilbao qui a de l'expérience. Tu pourrais, dans les matchs en jeu, les mettre plus qu'un Pau Cubarsí en huitième de finale retour face au Anap, et ben c'est le choix du jeune défenseur que fait Xavi. Donc ça veut tout dire quand même, Elton.
18 janvier 2024, anniversaire accessoirement de Pep Guardiola, c'était le premier match de Pau Cubarsí en Copa. C'était le 18 janvier 2024. C'est 12 matchs seulement avec le Barça, mais on dirait qu'il en a fait 50. On dirait qu'il en a fait 50 parce qu'il a eu un tel impact que... c'est vrai qu'Inigo Martínez, malheureusement, il en a été victime, parce que Inigo Martínez, tu l'as évoqué, Hugo, c'est quand même un palmarès, un vécu en Liga, entre la Real Sociedad, où il était de la génération Griezmann, et Bilbao. Et Bilbao, Dieu sait qu'il a fait beaucoup de mal au Barça, notamment sur des matchs de coupe. Donc c'est un défenseur référencé qui arrive en Liga. Ce qui situe la performance de Pau Cubarsí, parce que Cubarsí, je n'ai jamais vu ça à 17 ans en défense centrale au Barça. Parce que normalement, l'âge pour un défenseur central dans ces grands clubs, c'est un péage. C'est un péage à savoir que tu as 17 ans, tu vas attendre ton tour comme tout le monde avant de pouvoir t'imposer. Et Pau Cubarsí, aujourd'hui, je peux le dire, mais très tranquillement, sans lui mettre la pression, parce que c'est vrai qu'il faut avoir énormément de recul, notamment avec cette jeunesse. Mais enfin, les trois meilleurs matchs de Pau Cubarsí cette saison sont contre Naples. C'était son premier match de Ligue des Champions. Il est élu homme du match. C'est pas moi qui l'a dit, c'est l'UEFA. Son deuxième meilleur match, c'est contre l'Atlético de Madrid. Bah, c'était la semaine dernière où il est extraordinaire. Et son troisième meilleur match, c'est contre Bilbao. On parle de trois scénarios qui devraient être intimidants pour un gamin de 17 ans. Il n'en est rien. Donc ça démontre bien l'impact qu'a généré. Mais globalement, quand tu parles du renouveau de la Masia, c'est totalement ça, savoir que on pourrait même inclure l'équipe B. L'équipe B, il faut savoir que l'équipe B est à un point du Deportivo La Corogne en troisième division, avec Rafa Marquez qui est l'entraîneur. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que théoriquement, cette équipe B devrait avoir les Koubarsi, les Yamal, les Fermín López, les Hector Fort, Marc Gouillou qui est aussi en équipe première qui avait marqué contre Bilbao. Ces jeunes-là devraient être au minimum dans l'équipe B du Barça ou sinon en Youth League par rapport à leur tranche d'âge. Donc tout ça pour dire que ça récompense quoi? Ça récompense le travail global, le travail de fond mené par... non, alors bien évidemment, ils n'étaient pas là. Il y a aussi des formateurs qui doivent être associés à ça, qui pour moi sont les premiers à mettre en avant, ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, ce qui a manqué les années précédentes, c'est la coordination. À savoir que sous Bartomeu, les équipes de jeunes n'étaient pas une finalité. À savoir que la vitrine, c'était l'équipe première. Du côté de Laporta, Laporta a dit dès son arrivée en tant que président du Barça, nous, on va partir sur une formule, la Masia plus des stars confirmées. Bon, il se trouve qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de prendre des stars confirmées, tu es obligé de regarder d'autres joueurs. Mais ce que je veux dire sur la Masia, c'est que faut pas oublier que cette saison, pour la première fois depuis la saison 2002-2003, ça coïncide avec la saison où le Barça est en difficulté économique, c'est l'effectif le plus court du Barça en termes de contrat pro. Et donc, par rapport à ça, ça favorise quoi? Ça favorise l'arrivée de ce qu'on appelle en Espagne les enfants de la crise, à savoir Yamal, Koubarsi, Hector Fort, Fermín López, Gouillou qui a été aussi…
Elton, on parle même sur le chat dans ces jeunes de Mikaïl Faye, international sénégalais qui joue avec…
Exactement. Alors ça, c'est de la folie. C'est de la folie parce que Mikaïl Faye, dans l'absolu, il pourrait être dans l'équipe première. Mais en fait,
il a 19 ans, arrière gauche. Il a marqué hein, pour son dernier match avec le Sénégal face au Gabon en match amical. Samuel Vasselin, je salue, qui devait être content, vu 3-0 mis par le Sénégal. Mais voilà, il avait marqué à seulement 19 ans.
Et il faut savoir pourquoi on parle de ce joueur. On parle d'un joueur qui n'est pas connu parce qu'il n'est pas encore dans l'équipe première. Mais c'est l'un des éléments moteurs de la troisième division. Et il était avec, à un moment donné, il était avec Pau Koubarsi, parce que faut savoir que la troisième division, pour ceux qui se représentent, c'est un championnat. Bon, j'ai pu voir quelques matchs. Bah, évidemment, je regarde pas tout. Mais en gros, tu mets l'armure et tu y vas. Donc, on parle, j'ai parlé sous le contrôle de Yacine, on parle de joueurs qui, théoriquement, ne sont pas encore formés athlétiquement et qui sont en capacité de répondre à ce genre de défi. Donc, c'est pour ça
Surtout s'ils sont déjà internationaux, alors ils jouent pas encore avec les A au Barça. Mais en tout cas, il est déjà en sélection, quoi. C'est ça qui est dingue.
C'est pour ça que ça va être très important de voir ce qui va se passer pour Mikaïl Faye, parce que aujourd'hui, ça me paraît inenvisageable l'été prochain de le laisser en équipe B tellement il est en avance. Donc, à voir qu'est-ce qui va être fait, parce que on dit ça, mais il y a aussi Shadi Riyad, qui est défenseur au Real Betis, qui a fait une vraie bonne première partie de saison, qui est international marocain, qui est théoriquement, qui peut revenir au Barça. Donc, c'est la chance. Et Shadi Riyad est passé, a été formé au Barça. Il a eu son premier match face à Mallorca il y a quelques années. C'était une victoire 1-0 avec le but de Luc de Jong. Tout ça pour expliquer que la Masia aujourd'hui permet de régler une chose. Permet de régler une chose, à savoir que dans la planification sportive, plutôt que d'aller investir sur le marché des transferts, et là, l'argent, c'est très compliqué, notamment par rapport à la notion d'enregistrement, et ben le fait d'avoir ces jeunes, ça te permet d'être plus tranquille sur ta planification sportive. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est leur mérite, à savoir qu'ils ont réussi à se faire une place. C'est vraiment le mot, ils ont réussi à se faire une place. Et que aujourd'hui, c'est des éléments à considérer autant dans la rotation que dans le 11-type pour Koubarsi et Lamine Yamal.
Et je le disais, hein, voilà, évidemment encadré par des joueurs d'expérience aussi, avec des Ter Stegen qui fait une excellente saison, Gundogan au milieu de terrain, Cancelo et Lewandowski qui en ce moment est de mieux en mieux et qui avait marqué d'ailleurs contre l'Atlético de Madrid. Alors, on va passer à notre quatrième partie désormais, à savoir coach parisien et entraîneur catalan, joueur et coach par Barcelone, Luis Enrique. Et on l'a titré évidemment comme on se retrouve le Barça et Luis Enrique, donc qui a été 8 ans joueur au Barça entre 96 et 2004, 3 ans en tant qu'entraîneur, on s'en souvient évidemment très très bien, entre 2014 et 2017, avec 9 trophées, dont 2 Ligas, une Ligue des Champions en 2016 notamment.
Troisième entraîneur le plus sacré de l'histoire du Barça. C'est ça. Ce n'est pas rien. Le deuxième, c'est Cruyff. Le premier, c'est un entraîneur, je crois que vous le connaissez un peu, il s'appelle Guardiola.
Un petit peu, ouais. Voilà, c'est dire l'empreinte qu'il a laissée au Barça. Et d'ailleurs, il y a un, une question qui lui avait été posée, parce qu'évidemment, dans les confrontations, il n'y a pas si longtemps, en 2017 notamment, il y avait eu celle de 2021, mais on lui posait la question en conférence de presse, hein, après le tirage au sort des quarts de finale, sur cette fameuse remontada en 2017, c'était avant le match contre Montpellier, il me semble, si la remontada, c'était l'un de ses meilleurs souvenirs. Et je trouvais intéressante sa réponse, et Yacine Elton, je vous posais la question après, il avait répondu, non, c'est pas un meilleur souvenir, parce que cette remontada n'a servi à rien, malheureusement. On a été sorti par la Juventus derrière, ce n'était donc pas le match le plus spécial de ma carrière. Le PSG avait gagné 4-0 contre nous, on se souvient de moi pour la remontada, mais on était entre la vie et la mort 15 jours auparavant. Ensuite, le regard a changé. Je me souviens du 4-0 et du 6-1, cela fait partie de l'histoire, j'en suis très fier. Je ne changerai rien de ma carrière, j'aurais sans doute pu faire beaucoup mieux, mais j'ai donné mon maximum. Avant de parler un peu des retrouvailles entre les deux clubs, parce qu'on a dit qu'il était content de revenir dans son pays, évidemment, d'affronter le Barça. Yacine, on en avait parlé un petit peu dans le podcast, mais sa réponse quand même est très intéressante pour désamorcer un peu tout ça, pour éviter de parler encore de cette énième fois de la remontada, et vraiment d'avoir une approche du match sur de façon un peu plus sur l'événement, les présents, quoi, en fait, avec une équipe du Barça qui a changé depuis, le PSG qui a renouvelé son effectif, et donc à part Marquinhos et des joueurs blessés comme Kurzawa et Kimpembe, il n'y a plus de joueurs qui étaient partis de sa remontada. Et voilà, c'est une façon aussi de se concentrer sur autre chose et de dire, voilà, il y a eu cet événement-là, moi, ça m'a pas marqué plus que ça, et ça sera un tout autre match.
Ouais, tu veux dire qu'il a une réponse un peu plus intelligente que « c'est mon plus grand souvenir d'entraîneur parce que c'était impensable », etc.
Voilà, par exemple, ouais.
Évidemment que sa réponse, elle est intelligente. Et en plus, non seulement elle est intelligente, mais quand tu la lis bien, il a raison. Parce qu'effectivement, après la remontada, il ne s'est rien passé. Que c'est presque la fin, c'est la fin de l'aventure de cette équipe-là. Enfin, il a raison. Maintenant, c'est très bien de le dire comme ça aussi, parce qu'il aurait très bien pu dire que ça reste quand même un grand souvenir, parce que, évidemment, qu'on ne va pas revenir sur l'histoire de l'arbitrage et tout, mais le scénario... et quoi qu'il arrive sur un terrain, gagner un match de cette façon-là, se qualifier de cette façon-là, au bout du bout, etc. Évidemment que ça marque. Donc, il aurait pu, peut-être pas en rajouter, mais dire que ça reste quelque chose de très bien, de très fort, etc. Il en a pas rajouté. Donc, c'est plutôt intelligent de sa part. Et d'ailleurs, j'ai vu un commentaire vite fait parce que ça me permet d'en parler. Mais on a quand même 4 coachs sur les 8 de quart de finale de Ligue des Champions. Qui ont un lien avec le Barça, c'est quand même pas mal. Puisqu'il y a Xavi, ouais. Arteta, Guardiola et Luis Enrique.
Ouais. Est-ce que c'est anodin, ça?
Des fois, c'est pas anodin quand c'est les Portugais, donc je vois pas pourquoi ce sera anodin quand c'est les Espagnols.
ça forme des joueurs, mais ça forme aussi quelque part des entraîneurs, à l'exception d'Arteta qui est un cas différent. Mais pour revenir sur la déclaration de Luis Enrique, c'est le pur Luis Enrique tel qu'on le connaît, à savoir que moi, ce qui ressort, c'est le compétiteur. Parce que la remontada a davantage une portée historique, symbolique que sportive. Ça ne s'est pas traduit derrière par un parcours qui t'a emmené vers une finale, un titre en Ligue des Champions, si tu veux. Liverpool, eux, ils peuvent capitaliser sur le 4-0 contre le Barça parce que derrière, il y a eu un impact, à savoir qu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Alors oui, c'est vrai que tu gagnes 6-1, mais derrière, tu en prends 3 contre la Juve et tu gagnes pas au Camp Nou. Donc, Luis Enrique, je pense qu'il se souvient de tout ça et que si, effectivement, il y a une dimension symbolique qui est très importante, il dit, ouais, mais au final, sportivement parlant, on a fait quart de finale derrière. Et ça, il va beaucoup plus se retenir. Donc, c'est une manière de dire deux choses. Oui, c'est bien, c'est un caractère événementiel, mais c'est aussi, quelque part, il y en a qui vont peut-être prendre pour un parano par rapport à son équipe actuelle. Mais ça ne traduit rien. C'est-à-dire que la vérité d'un match n'est pas la vérité de plusieurs matchs. C'est pas parce que tu as fait une grande performance que ça te garantit d'aller loin dans une compétition. Et donc, moi, je pense que c'est dans ce sens que Luis Enrique s'est exprimé, à savoir que oui, encore une fois, on a gagné 6-1, mais qu'est-ce qu'on en a fait derrière? Qu'est-ce qu'on en a fait derrière? Et c'est pour ça que, en gros, il faut pas se reposer sur ses lauriers juste parce que tu as gagné 6-1 sur un match retour.
Et Elton, justement, comment voit cette la presse espagnole voit cette double confrontation, le retour de Luis Enrique en terre barcelonaise, et puis de dire ça un peu dans le sens où on a vu que certains médias espagnols parlaient d'un possible retour de Luis Enrique la saison prochaine, juste avant le match. Évidemment, hein, les médias espagnols ne vont pas s'en priver dans une tentative de déstabilisation, si on peut le dire comme ça, mais ça fait partie, évidemment.
Ouais, t'inquiète pas, les médias français, ils vont s'en charger aussi.
Hein. Oui, bah, je sais, j'en doute pas, on fait déjà depuis quelques temps, mais c'est vrai que ça va accompagner un peu tout le folklore, toute cette double confrontation, et les médias espagnols s'en régalent, et les médias français, Yacine en parlait aussi un peu.
Et de toute façon, c'est toujours pareil pour un entraîneur du Barça, ça me fait penser à certains présidents de la République. La nostalgie fait son œuvre. C'est-à-dire que Luis Enrique, on s'en souvient avec beaucoup plus de positivité qu'en 2017 quand il part. Parce que Luis Enrique, jusqu'à aujourd'hui, c'est le dernier entraîneur à avoir amené la Ligue des Champions au Barça. Donc forcément, dès que, à partir du moment où il a ce titre honorifique, bah forcément, ça le rend beaucoup plus sympathique. Après, il ne faut pas oublier qu'il a été capitaine de l'équipe première. Donc il y a beaucoup plus de respect par rapport à son travail, parce que automatiquement, l'entraîneur actuel, enfin l'entraîneur du Barça à l'instant T, est toujours comparé au dernier entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions. Et donc forcément, comme c'est Luis Enrique, il y a beaucoup plus de sympathie par rapport à son travail. Alors que ce qui était marrant, c'est que Luis Enrique, et c'est marrant que je dis ça, rétrospectivement, Luis Enrique se faisait attaquer, notamment par rapport au fait qu'il était en train de tuer le Barça Cruyffiste. Parce qu'il avait instauré un peu plus de verticalité, cette idée de contre-attaque qui était un peu plus poussée, alors qu'au final, c'était le football tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc, il était un peu en rupture, et par rapport à ça, il était attaqué. Il y avait aussi parfois des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Je fais référence à ce qui s'était passé au Parc des Princes. Mais aujourd'hui, Luis Enrique est très apprécié, enfin, pas très apprécié, et beaucoup plus apprécié qu'en 2017. Et forcément, son retour est attendu avec beaucoup de curiosité parce qu'il revient en tant qu'entraîneur du PSG. C'est-à-dire, un club, c'est quand même deux visions qui sont paradoxales. À savoir que le PSG, évidemment, et parfois, est pointé du doigt, on ne va pas se mentir. À côté de ça, on les craint énormément parce qu'on se dit, tôt ou tard, ils vont la remporter cette Ligue des Champions et on ne pourra rien faire. Et donc, l'idée que ce soit Luis Enrique qui soit l'entraîneur qui fasse ça, eh ben, ça ajoute un peu plus d'intérêt.
Yacine, c'est vrai que ça serait fou que Luis Enrique remporte la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en battant le FC Barcelone. Ça ferait quand même beaucoup de signes pour cette saison. Et justement, toi, comment tu la vois aussi, cette double confrontation d'un point de vue un peu plus tactique avec ton regard de coach sur ce que Luis Enrique fait depuis le début de saison au PSG par rapport au match du Barça que tu as vu? Alors, évidemment, d'ailleurs, Luis Enrique a dit, hein, Xavi, moi, me connaît en tant qu'entraîneur. Moi, je ne connais pas son style de jeu, etc. Il dit, on va étudier un peu comment joue le Barça cette saison. Mais évidemment que voilà, Xavi, lui aussi, lui, il sait comment joue Luis Enrique, fait jouer ses équipes. Et ça va être intéressant tactiquement, cette double confrontation.
Ouais, clairement. Luis Enrique, il sait jouer avec ça. Bon, on se rappelle quand même que les trois semaines avant le fameux match retour. Il y a eu des petites déclarations, etc. À l'époque. Là, quand il dit ça, c'est en gros, il a un avantage sur moi, il me connaît, moi je ne le connais pas trop. Bon, alors que bon, on va pas se mentir, hein, tout le monde se connaît. Voilà, il joue avec ça. Je pense que déjà, il a raison, ça fait partie du jeu, de jouer avec les médias, de faire des petites déclarations à droite à gauche. Sur le combat tactique, entre guillemets, Luis Enrique, il fait partie de ces coachs qui aiment trouver un peu le point faible de l'adversaire et appuyer dessus. En tout cas, chercher quelque chose pour mettre en difficulté ou pour aller dans le sens. On se rappelle, par exemple, je vais donner un exemple concret, mais avant ce fameux match de 2017, là, le Barça, pratiquement sur les 7 premiers mois, ne joue pas à 3 derrière. Et comme il va falloir marquer beaucoup de buts, etc., bah, les 3 semaines entre la fin du match aller et le match retour, bah, il passe à 3 derrière sur tous les matchs du championnat. En gros, bah, je vais tester mon équipe parce que c'est dans son idée, c'est le seul moyen de mettre du monde devant, de mettre de... Enfin bref. Et il le fait. Voilà. C'est quand il joue la Real Sociedad il y a 15 jours, 3 semaines. Il met pas d'avant-centre et il laisse deux attaquants, mais deux attaquants écartés En utilisant Dembélé dans un rôle un peu hybride de milieu attaquant, enfin bref, mais pour densifier le milieu, mais aussi pas les deux attaquants à l'intérieur pour poser un problème à la Real Sociedad et pas rajouter du monde à l'intérieur du jeu. Voilà. C'est un entraîneur en fait qui a des principes à lui, mais qui, comme Guardiola d'ailleurs, parce que même si Guardiola c'est peut-être un peu moins flagrant parce que, alors déjà ses principes sont peut-être plus forts et il est installé dans un club depuis 7-8 ans. Donc évidemment, ça saute plus aux yeux ce qu'il met en place. Mais comme Guardiola, pour ceux qui ont lu notamment les ouvrages qui étaient écrits sur Guardiola et notamment son passage au Bayern, il est dans ce truc de... Il y a tes points forts, tes principes, mais il y a quand même d'appuyer sur une des failles ou la plus grosse faille que tu vois chez l'adversaire. Le truc, c'est que le Barça est un peu en train de changer sur les dernières semaines de joueurs et de façon de jouer. Et que là aussi, sur les 2 années un peu plus de Xavi, Xavi est capable de s'adapter aussi à certaines choses. Tu vois, pas, franchement, quand tu connais Xavi, quand tu connais le Barça, qui peut te dire que Christensen, ça va devenir ton milieu de terrain? Bon, voilà. Ah, aujourd'hui, c'est le milieu de terrain du Barça. Donc.
Il était remplaçant défenseur. Il n'avait pas la confiance de Xavi en poste de défenseur central. Et avec les blessures, il l'a fait monter d'un cran. Donc, j'imagine qu'il a dû
Voilà.
tester vraiment ou voilà par manque aussi peut-être de choix. Alors, par contre, c'est
Voilà,
Roméo.
donc.
Roméo, il rentre même plus dans la boucle. Hein. Il a plus de temps de jeu.
Ouais,
Voilà,
il a
donc ça.
clairement souffert de sa première partie de saison.
Voilà, donc ça, c'est intéressant parce que moi, qui aime ça aussi, entre Xavi et Luis Enrique, l'adaptabilité ou l'adaptation qu'ils sont capables d'avoir, les principes qu'ils ont aussi, et tout ça, ben ouais, ça va donner quelque chose de très intéressant. Et moi, tu vois, quand on parle vite fait, pour finir, quand on parle de tout ce qu'a fait Luis Enrique depuis le début de saison, il peut se passer des choses contre le Barça, qu'on peut, comme, parce que quand on écoute un peu les médias, tu sais, le fameux 11 surprise, que tout le monde dit, ouais, on n'arrive plus à définir le 11, mais pour moi, ce ne serait pas une surprise, ce serait quelque chose que lui a identifié, et il mettrait en place quelque chose pour utiliser cette faiblesse, par exemple.
Yacine l'a évoqué pour moi.
Ça
Yacine l'a
promet
évoqué pour
ça
moi.
promet une très très bonne minute coach hein, quand même, Yacine. Hein.
Hein?
Ça promet une très très bonne minute
Ah ouais,
coach.
c'est
Hein,
clair.
après, ah, tu vas faire.
Normalement, ouais.
Vas-y.
Yacine l'a évoqué pour moi. Ça va être la bataille fondamentale parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont deux entraîneurs espagnols qui vont s'affronter et c'était déjà le cas face à Real Sociedad. La bataille de la supériorité numérique au milieu de terrain parce que la beauté et la cruauté par extension de la Ligue des Champions, c'est que. Tu peux t'adapter à ce que fait ton adversaire. Et Luis Enrique, il a vu que à l'aller, la Real Sociedad est une équipe de milieu de terrain pour moi, notamment dans cette idée de supériorité numérique au milieu de terrain. Il t'avait fait beaucoup de mal sur la première période au Parc des Princes, parce qu'a fait Luis Enrique au match retour, il a dit, eh ben, on va gagner cette bataille au milieu de terrain avec la supériorité numérique qui sera incarnée symboliquement par Ousmane Dembélé. Et là, il se trouve que tu vas affronter un entraîneur qui pense de la même manière, parce que t'as le Barça de Xavi avec son fameux carré, c'est-à-dire traditionnellement. Bon, traditionnellement, il faudra voir avec les retours des blessures. Mais aujourd'hui, si tu te fies à ce qui s'est passé contre l'Atlético de Madrid, Christensen, Gundogan, Sergio Roberto et notamment Fermín López, eh ben, tu vas avoir cette idée d'avoir la supériorité numérique au milieu de terrain pour pouvoir t'installer dans le camp adverse et faire reculer l'adversaire. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que Luis Enrique va faire? En sachant qu'il y a un facteur qui pour moi est très important, notamment dans cette idée de supériorité numérique, au match aller, tu n'as pas Achraf Hakimi. Et
Ouais,
ça, pour moi, pour Luis Enrique,
entendu, ouais.
pour moi, Luis Enrique, dans cette idée de gagner cette bataille de la supériorité numérique au milieu de terrain, qu'est-ce qu'il va faire? À savoir, est-ce que il va mettre Zaïre Emery sur le côté droit? Moi, j'écarte absolument pas cette idée. Est-ce qu'il va réinstaller Dembélé dans ce rôle libre? Il va avoir les deux attaquants excentrés. Donc, l'équipe qui aura cette bataille de supériorité numérique en sa faveur fera un grand pas sur la double confrontation. Pour moi, je suis convaincu de ça.
Avant de passer à notre dernier thème sur l'avantage Barça pour avoir le retour à Montjuïc, Yacine, on avait préparé, je sais pas si tu l'as, la photo du 11 du Barça. Alors j'ai repris celui, pas celui contre l'Atlético de Madrid, puisque ça avait fait beaucoup tourner, il y avait quelques blessures, des pépins physiques, mais celui face au match quart de finale retour face à Naples. Je ne sais pas si tu l'as, Yas. Tu avais demandé. Tu l'as pas?
Non.
Bon, c'est pas grave, on fera comme ça à la voix. Mais c'est vrai que par rapport au choix de Xavi, il pourrait. Enfin, est-ce que ça va jouer au. Ça peut paraître bateau, mais en vrai, je pense que ça va quand même être le cas. Est-ce que ça va jouer au milieu de terrain? Elton en parlait. S'il nous refait un coup tactique avec Dembélé qui vient plus en numéro 10 pour apporter un peu le surnombre au milieu, est-ce que ça pourrait jouer là-dessus, Yas? Alors, je sais pas si tu veux que je te laisse chercher, si tu cherches la photo.
Maintenant, c'est surtout que j'ai un problème avec mon ordi et je ne peux pour pas que ça coupe le live.
Ouais, c'est ça.
Bon, alors, tu veux que je repars avec Elton ou je te laisse répondre?
Ah, ouais, repars avec Elton et j'essaie de régler parce que si on coupe le live là, on est mort.
Non, vaut mieux pas. Elton, c'est vrai que quand tu as vu Luis Enrique faire ça contre la Real Sociedad en Paris avec Ousmane Dembélé, alors franchement, personne ne s'y attendait parce qu'on n'avait jamais vu ça depuis le début de saison avec Mbappé vraiment qui était côté gauche, ça repiquait un peu dans l'axe, mais on l'a vu plus sur sa position préférentielle, être lancé en profondeur, avoir de l'espace à gauche, et puis donc avoir Dembélé qui s'est un peu sacrifié hein, pour le collectif, on va dire, parce qu'il était un peu au milieu de terrain à jouer un peu pour gêner un peu le milieu de terrain par ça. Est-ce que tu penses que Luis Enrique est capable de refaire ce genre de choses face au Barça?
Ah ouais, moi je me suis dit, oh, le petit cachotier, il a recommencé. Parce qu'il avait déjà fait... Il l'avait déjà fait. Souvenez-vous, quand Lionel Messi avait été blessé après Las Palmas en septembre 2015, il avait essayé Neymar dans ce rôle-là, dans un rôle libre. Il avait un peu désaxé Luis Suarez, parce que à partir du moment où la MSN n'existait pas pendant un certain temps, vu que Messi était absent un mois et demi, il avait tenté Neymar. Mais plus récemment, il avait fait avec Marco Asensio avec la sélection espagnole. Puisque souvenez-vous, notamment le match contre Costa Rica, contre l'Allemagne, notamment contre le Costa Rica, c'est un carnage à partir du moment où t'as Marco Asensio dans ce rôle-là, dans ce rôle libre, précisément par rapport à cette idée de supériorité numérique. Donc quand j'ai vu Ousmane Dembélé dans ce rôle en début de match, j'étais un peu surpris, mais en même temps pas surpris, parce que ça s'inscrit en fait dans ce que Luis Enrique a déjà fait avec des joueurs comme Neymar, avec Marco Asensio et donc avec Dembélé. Moi, c'est surtout par rapport au fait qu'il l'a tenté sur un huitième de finale retour après un 2-0. Mais c'est aussi parce qu'il avait gagné 2-0 qu'il pouvait, entre guillemets, se permettre ça. Tout simplement parce que c'est ça, Luis Enrique. C'est un entraîneur qui ne vit pas de certitude, c'est un entraîneur qui vit de conviction. Et pour moi, c'est la force d'un entraîneur, à savoir qu'il veut faire évoluer son équipe. Là où il y en a qui diront « Ouais, il veut réinventer le football ». Non, Luis Enrique, il anticipe toujours le coup d'après. Parfois, ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. Il y a des décisions qui étaient... Il y a des décisions qui, a posteriori, n'ont pas été validées par le résultat. Mais j'ai parlé sous contrôle de Yacine, qui est un entraîneur. Et ça, c'est la vie d'un entraîneur, à savoir qu'il essaie d'anticiper des choses et parfois, ça ne marche pas. Est-ce que ça va invalider sa réflexion précédemment? Non. Mais malheureusement, je vais te donner une image. C'est comme le chef cuisinier, il est dans sa cuisine. Il pense avoir fait un bon truc. Il pense avoir mis tous les éléments pour réaliser le repas. Et après, le final cut, c'est quoi? C'est le gars qui va manger, qui va dire « je n'apprécie pas ». Ramener au football, c'est, il y a la vérité du résultat, ou à la 93e minute, tu peux prendre un CSC et tu perds un 0. Est-ce que ça va invalider la réflexion que tu as fait précédemment? Donc, c'est pour ça que Luis Enrique, notamment dans cette idée d'installer Ousmane Dembélé dans ce rôle-là, je pense qu'il l'a pensé précisément à partir du moment où au match aller, la Real Sociedad avait posé beaucoup de problèmes, notamment au milieu de terrain.
Oui. Et Yacine, avant de passer à notre dernière partie, c'est vrai qu'Elton en parlait, Hakimi sera suspendu. Alors là, je vois sur le commentaire, hein, enfin les commentaires sur le chat, ça nous dit, est-ce que ça va être Mukiele à droite? Est-ce que Marquinhos va décaler à droite? Est-ce que ça va être Zaïre Emery? On a vu le plus souvent Yacine. Il y a même eu Carlos Soler à droite. Bon là, je pense pas que tu tenteras ça non plus, faut pas exagérer.
Bon, attention, attention.
Ouais, je dis ça.
Mais... Ouais, attention.
Après là, pour voir un peu les, enfin pour voir tous les matchs du PSG et l'utilisation qu'il fait de Soler. Soler, quand il le met, c'est au Parc des Princes contre un adversaire pas trop difficile. Voilà, dans des bonnes conditions quoi. C'est pas, tu sais que c'est pas au feu dans un match en jeu.
Mais tu sais que Carlos Soler, notamment dans cette idée de supériorité numérique, il a le profil, mais même, malheureusement, le problème de Carlos Soler, c'est la performance. C'est-à-dire que tu peux avoir le profil, si t'es pas performant, en fait, ça invalide tout.
Ah là, Elton, si je te laisse regarder le chat et les gens, ce qu'ils nous disent sur Soler, tu vas rigoler. Parce qu'ils sont pas trop fans, les supporters, ceux qui nous suivent avec nous, notre communauté de Carlos Soler. Yacine, alors Mukiele, Marquinhos, Zaïre-Emery.
Ouais, alors, Juste déjà, je réponds à Anton sur un truc quand il a dit ouais, les entraîneurs qui cherchent, des fois ça marche pas. En fait, on peut se rappeler quand même Guardiola qui s'est fait taper dessus avec City sur quelques éliminations en Ligue des Champions notamment, où on disait ouais, pourquoi il a tenté ça? Tiens, la finale, il joue sans numéro 6. Bon, voilà, c'est le revers de la médaille de ces entraîneurs. Quand ça marche, c'est coup de génie. Et puis quand ça marche pas, c'est que tu as trop réfléchi. Bon, c'est aussi le foot. Sur le positionnement des joueurs, évidemment que dans l'absolu, moi je pense qu'en termes de fiabilité, de rôle, etc., pour moi le meilleur, le choix le plus crédible et le plus cohérent pour moi, c'est Marquinhos. Maintenant, il y a le fait que ça fait un moment qu'il n'a pas joué, qu'on ne sait pas trop où en est sa blessure. Et donc, à un moment donné, bah déjà, tu sais pas s'il risque de jouer et de se blesser, tu sais pas s'il manque réellement de rythme, parce que en fonction de sa blessure, qu'est-ce qu'il a fait depuis 5 semaines? Est-ce qu'il s'est entraîné et il peut pas jouer, mais il a gardé du rythme? Est-ce que vraiment il a coupé? Est-ce que, bon, déjà, il y a cette interrogation-là. C'est dommage parce que Marquinhos, en fait, pour moi, il coche toutes les cases. La vitesse. Le poste, parce qu'il a déjà joué latéral droit, la vitesse dont tu as besoin, la qualité technique et la qualité de centre si tu as besoin de déborder, et le rôle de rentrer à l'intérieur et d'être capable de jouer au milieu, puisqu'il a aussi joué milieu de terrain. Donc en fait, il cochait toutes les cases. Pour avoir fait ça depuis plusieurs semaines et avoir échangé avec des gens, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu écartes Mukele? Mais en fait, moi, j'écarte personne. Mais je pense que vous avez bien vu que Mukele n'avait pas besoin de moi pour être écarté. Le mec, il a joué un match à Monaco en 2 mois. Enfin, non, il a joué Lille et Monaco. Bon, c'est pas moi qui l'écarte, c'est le coach qui semble ne pas le calculer. Maintenant, je pense que Luis Enrique, ça fait partie aussi de ses coachs qui sont capables de se dire, Mukele, si je pense que c'est le meilleur à ce moment-là, il est capable de le mettre. Hein. Je dis pas qu'il jouera pas. Je dis qu'aujourd'hui, dans les probabilités, il est quand même loin derrière les autres. Après, en fait, ça va être plus de se dire, entre Zaïre Emery et les autres, finalement, est-ce que tu préfères un Zaïre Emery dans ce rôle-là hybride, alors un peu bridé et que tu perds un peu dans le milieu de terrain, ou te dire, ben, là où il est le mieux et on en a besoin, c'est le milieu de terrain et je vais m'adapter à droite. Ça, c'est toujours le choix. Le seul truc qu'il faut penser, et ça, je pense que c'est aussi un élément très important. D'ailleurs, il en a parlé, Luis Enrique, récemment. Mais pour ceux qui l'ont connu joueur, il faut jamais l'oublier. Luis Enrique, c'est un joueur qui a joué partout. D'accord? Pour ceux qui ont suivi sa carrière, c'est un joueur qui a joué partout. Il a joué
Sauf
milieu.
gardien, bien évidemment.
Voilà. Il a joué latéral, il a joué défenseur, il a joué milieu, il a joué attaquant, il a joué ailier, il a joué. Bref. Donc, en fait, pour lui, si dans sa tête, pour le collectif, alors ce que nous on comprendra peut-être pas, mais pour le collectif, Zaïre Emery à droite, c'est la meilleure solution à ce moment-là, bah en fait il le fera. Voilà. Il faut toujours se dire qu'il lui, il pense avant tout. Tu vois, même s'il y en a qui ont voulu expliquer que c'est de l'ego et tout avec Mbappé, les histoires avec Mbappé, les changements et tout. Bon, évidemment qu'il y a un peu d'ego, un peu de trucs, mais. La démarche première, elle n'est pas là. La démarche première, c'est que c'est un mec qui, joueur, était déjà un soldat, un mec de collectif. C'est-à-dire que tu le mettais latéral droit, il jouait latéral droit. Tu le mettais 6, il jouait 6. Donc, il a cette démarche-là dans sa tête, dans son comportement, etc. Et donc, à partir de là, s'il pense que Zaïre Emery, bah, il vaut mieux s'en priver au milieu de terrain, de l'avoir dans ce rôle-là, parce que collectivement, c'est là où tu perds le moins, bah, c'est le choix qu'il fera. Voilà, c'est tout.
Et je regardais Nordin Mukiele, même quand Hakimi, bah, enfin, on les a vus les matchs, mais même quand Hakimi était à la CAN, je me disais, bon, il a dû faire des rentrées 20-25
Deux
minutes.
fois.
Non, il joue 2 fois, il joue 4 minutes contre Strasbourg et il joue 90 minutes contre Revel en Coupe de France.
Ah, tu
Donc,
vois.
pour te dire, c'est fou, il a participé qu'à 11 matchs sur 26 possibles en Ligue 1.
Mais oui.
C'est quand même, enfin, bon, on se pose la question à chaque fois, on a un groupe WhatsApp avec les mecs de Paris United, on se demande mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il a fait à Luis Enrique, quoi. Il doit y avoir une bonne raison, mais Bon, surtout que c'est pas, franchement, quand il joue, on peut pas dire qu'il est mauvais. Évidemment, il manque de rythme parce qu'il joue pas, il enchaîne pas. Mais alors, Dimitri Kelly, c'est pas pour rien qu'il est sollicité par le Bayern Munich au mercato d'hiver quand même.
Mais j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Yacine. Et pour le coup, moi, je me bats à chaque fois, notamment pour expliquer le travail de Luis Enrique. On peut pas comprendre le Luis Enrique entraîneur sans regarder le Luis Enrique joueur. Même chose pour Guardiola, même chose pour Arteta, parce que ils sont animés par des convictions qui sont nées sur un terrain de joueur. À savoir que Luis Enrique, lui, ne parle pas nécessairement en termes de poste, sauf pour le poste de gardien, mais c'est un poste qui est ultra spécifique. Luis Enrique parle davantage de position. Et pourquoi je dis ça? Moi, j'ai souvenir d'un live Twitch où justement, quand on lui disait « Ouais, pourquoi Asensio en faux neuf ?» Luis Enrique fait « Eh, non, non, non. Pour moi, le faux neuf n'existe pas. Pour moi, Marco Asensio, c'est un neuf avec d'autres qualités parce que j'ai des avant-centres qui ont des qualités différentes. Donc, moi, il n'est pas question de faux neuf. Pour moi, c'est un avant-centre, c'est un neuf. Simplement, il a d'autres qualités à faire valoir. Et c'est ça, Luis Enrique, à savoir que suivant la position, suivant ce qu'il va vouloir adopter sur le match, eh ben, il va installer un joueur à ce poste de manière spécifique. Et ça ne veut pas dire que ce joueur, ça va être inscrit dans le marbre et qu'il va rester comme ça. Ce joueur peut évoluer sur un autre poste, sur un autre raisonnement footballistique. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important.
On va passer à notre dernière partie du podcast. Après avoir évoqué les retrouvailles entre Luis Enrique et son club, et Barcelone, sur le match retour, donc qui sera au stade olympique de Montjuïc, hein, puisque comme vous le savez, depuis cette saison, le Barça ne joue pas au Camp Nou pour cause de travaux. Il devrait retrouver le Camp Nou fin de l'année 2024, Elton, si je ne dis pas de bêtises.
Joan Laporta s'est exprimé en fin de semaine dernière à Mundo Deportivo. Ils espèrent décembre 2024, parce qu'il ne faut pas oublier que fin novembre 2024, j'ai fêté les 125 ans du club, et donc ils auraient bien fêté ça dans le nouveau stade. Mais le nouveau stade, qui ne sera pas prêt.
Là, à 100%. Oui, c'est ça. Sera, il y aura encore des travaux dedans, mais ils pourront quand même jouer dedans.
Il y aura encore des travaux dedans. La livraison définitive, c'est davantage pour 2026, si tout va bien.
Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le match retour de quart de finale Ligue des Champions, ça sera au stade olympique de Montjuïc, hein, situé sur les hauteurs de la capitale catalane. Elton, comment se comporte le Barça à domicile cette saison? J'ai regardé, moi, ils sont cinquième du classement, hein, dans les matchs à domicile. Il y a 11 victoires, 1 nul et 3 défaites. D'ailleurs, les trois défaites on parlait des défaites du Barça cette saison. Il y en a eu trois, et les trois donc sont à domicile. Est-ce qu'il y a vraiment un avantage pour le Barça de jouer évidemment, t'es quand même devant tes supporters, etc. Mais est-ce que ils ont la même ferveur, est-ce qu'il y a la même ferveur qu'au Camp Nou, la même atmosphère?
Ah, alors attention, c'est un peu plus compliqué cette saison parce que le défi pour le Barça, c'est de se réapproprier un stade qui n'était plus utilisé depuis quasiment 20 ans. Il faut savoir que il y a une vingtaine d'années, c'était le stade de l'Espagnol Barcelone qui l'utilisait, le stade olympique, avant de déménager du côté du stade de Cornellà El Prat. Il faut savoir que c'est là où Lionel Messi a fait sa première apparition en équipe première, justement sur un derby face à l'Espagnol. Donc c'est un défi, le stade n'est pas souvent rempli, parce que comme tu l'as évoqué, c'est sur les hauteurs de Barcelone, il y a des difficultés d'accès, ce qui fait que ça a du mal à se remplir, très clairement, de manière régulière. Tu vois des tribunes qui sont clairsemées. Enfin, quand je te dis clairsemées, c'est pas non plus Louis II, avec tout le respect qu'on doit avoir pour Louis II. Mais pour un club du standing du Barça, ça fait quand même un peu bizarre. Faut savoir que le match contre Naples, c'était la première fois où il y avait guichet fermé. Et c'était à l'occasion d'un huitième de finale retour. Sinon, traditionnellement, ça a du mal à se remplir. Précisément parce que il y a ça, il y a la problématique des auteurs, c'est en hauteur sur Barcelone. Il y a la problématique de la circulation, il y a la problématique aussi de la tarification. Et Dieu sait que c'est un enjeu très important parce que d'un côté, il y en a qui disent, ouais, par rapport à l'accueil, enfin, par rapport à l'attrait du stade, est-ce que ça vaut le coup de payer ça? Tandis que du côté du Barça, on se dit, ouais, vous êtes marrant, mais on est champion d'Espagne. Il y a un manque à gagner qui est important avec le fait que t'es pas au Camp Nou pendant un an et demi. Donc voilà, c'est deux visions qui s'affrontent, et le fait est que le Camp Nou, l'Apsus, le stade olympique n'est pas nécessairement rempli, et donc ça a un impact sur la ferveur, parce que tout le monde doit avoir une nouvelle habitude par rapport à ce stade-là, et donc ça joue. Maintenant, est-ce que ça va avoir un impact? Moi, j'ai envie de te dire, attention aux idées reçues, parce que Xavi l'a évoqué, Le Camp Nou, ça a quelque chose d'incroyable. Et j'ai envie de te dire, le bilan de Xavi en match européen au Camp Nou, c'est une victoire sur 8. C'était face à Pilsen. Donc j'ai envie de dire, oui, je veux bien l'attrait du stade. Le Camp Nou, effectivement, c'est impressionnant. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais factuellement, au stade olympique, tu as fait 4 sur 4 en Ligue des Champions. Et Ligue Europa, Ligue des Champions, tu as fait 1 sur 8 au Camp Nou. Donc c'est pour ça que moi, je dis, je fais très attention. Et je pense que, par exemple, sur un match au retour, pour peu qu'il y ait eu un résultat qui te permette d'envisager la qualification au match au retour, il y aura guichet fermé.
Yacine, par rapport, tu l'as eu, hein, ce stade de Montjuïc, qu'on l'a vu au quart de finale retour, huitième de finale retour, pardon, contre Naples, même les matchs de poule ou du Barça cette saison. C'est vrai que c'est pas pareil avec et on l'a vu aussi, la grosse piste d'athlétisme autour, hein, qui voilà, a fait que ça évidemment que c'est pas un stade comme les autres, surtout pas le stade du Camp Nou, où t'as des joueurs quand même très proches les publics, pardon, très proches du terrain et des joueurs. Avec la règle du but à l'extérieur aussi qui compte plus, est-ce que, Yacine, il y a encore un véritable avantage de recevoir à la maison au retour? Moi, je pense que oui. Hein. Je pense que oui, mais je pose la question. C'est mon rôle.
Il y a toujours un avantage parce que je pense que sur le match aller, il y a déjà un peu plus de calcul. On le voit sur les huitièmes de finale, par exemple. Alors, attention, les huitièmes de finale, globalement, ça n'a pas été l'extase. Mais je crois que les matchs allés, c'était encore pire. Parce que, en fait, justement, avant, tu avais cette équipe qui devait un peu aller chercher ce but à l'extérieur pour se donner un petit truc, et elle a plus besoin de le faire. Aujourd'hui, que tu gagnes 2-0 ou 4-2, il n'y a plus de différence. Donc voilà. Donc, et même sur les matchs retour, je trouve qu'il y a un peu plus de calcul qu'avant, puisque justement, avant, dès le premier but, en fait, les calculs commençaient. Est-ce qu'il faut aller marquer? Est-ce qu'il ne faut pas aller marquer? Voilà, maintenant, en fait, il n'y a plus de calcul, puisque c'est le nombre de buts d'écart et c'est tout. Donc, malgré tout, tu restes quand même chez toi. C'est un match retour. En connaissant le score du match aller, tu as donc l'appui de ton public. Tu es chez toi. Et s'il y avait une prolongation, tu es chez toi. Donc, tu as 120 minutes à faire chez toi. Donc, c'est quand même, malgré tout, un avantage qui est moins important qu'avant. Et pour revenir au stade, ce merveilleux stade, magnifique stade. Déjà, les stades avec piste d'athlétisme, moi, pour le foot, c'est dur. Écoute, moi, je pense malgré tout que sur ce coup-là, c'est pas un avantage pour le PSG, mais c'est moins impactant que si tu joues au Camp Nou, parce que le Camp Nou, ça reste quand même ton stade, qu'il y a plus de monde, qu'il y a plus de proximité. Voilà, c'est la piste d'athlétisme, on peut faire ce qu'on veut. Si le Bayern a quitté son stade, alors évidemment, il y a la modernité et tout, mais si le Bayern et la Juve ont quitté leur stade et ont fait des stades sans piste, c'est qu'il y a une raison. Donc, écoute, je pense que oui, c'est toujours mieux. Enfin, toujours mieux. Non, pas pour l'ambiance et l'atmosphère, mais pour le PSG en tout cas, c'est toujours mieux de jouer le match retour dans ce stade-là. C'est pas un désavantage, ça c'est clair.
Et puis ça enlèvera la pression, la petite pression de la pression de, enfin en tout cas des vieux démons de 2017, et de se dire voilà, tu vas pas être dans le stade du Camp Nou, il s'est passé ça. Là, ça sera une autre atmosphère, un autre stade, et donc rien à voir quoi.
Ouais, bien sûr. Après. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu 2021.
Ouais, c'est ça, il y a aussi 2021 en fait. Bon, après 2021,
on en a parlé dans le podcast, hein, je dis ça.
Oui, c'est vrai.
On en a parlé dans le podcast, ouais.
Hein, même s'il n'y a pas de public, et tout à ce moment-là, j'ai quand même l'impression que ce match, il n'a jamais existé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, pour effacer 2017, il faut encore d'autres matchs, ou il faut une vraie claque, ou je ne sais pas, mais on a l'impression des fois que ça. Mais je ne dis pas ça pour toi, hein. Même nous, même moi, des fois quand on en parle. D'un coup, tu te dis, tiens, mais en fait, alors, c'est un autre contexte, le match retour est au parc, il n'y a pas de public et tout, pas de problème. Mais des fois, quand on en parle, on a presque l'impression que le PSG, depuis le 2017, ils n'ont pas affronté le Barça, ils ne les ont pas battus. Voilà, quoi.
Elton, tu veux rajouter un petit mot?
Bien sûr.
Sur le fait que, sur le fait que la double confrontation en 2021, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un triplé d'Mbappé à l'aller, on se souvient, qui avait un peu marqué la défense du Barça. Et puis il y avait le but de, je me souviens, le but de Messi incroyable, la frappe de loin où il y avait un partout au retour. Ouais. C'est vrai qu'on l'occupe souvent, hein, ce match-là.
Ouais, mais on a l'impression que c'est quelque chose de particulier parce qu'on n'a qu'à voir sur la composition d'équipe du côté du Barça. De cette équipe-là, il reste Ter Stegen, si je ne dis pas de bêtises, et Frenkie de Jong. Si Frenkie de Jong revient, à côté de ça, tout le monde a disparu. Donc, c'est vrai que ouais, c'était une autre réalité, à savoir que c'était un match hors du temps dans tous les sens du terme, parce qu'il était question de quoi ? Il était question d'un triplé de Kylian Mbappé, il y avait des tribunes vides, on était encore en plein Covid, et on avait le Barça qui subissait sa première... saison avec notamment la crise économique qui l'avait fortement impacté. Donc c'est vrai que c'est une autre époque, aussi bien pour le Barça que pour le PSG. Et donc c'est deux équipes qui vont arriver avec d'autres dispositions. Et je pense que aussi bien 2017 que 2021, tu vois, quand t'es compétiteur et tout, tu fais plus qu'à de ça pour moi. Surtout avec les nouvelles générations.
Oui.
Puis, si tu veux, Koubarsi, en 2017, il a 10 ans. En 2021, il a 14 ans. Donc, tu vois, l'impact que ces deux matchs auront, je ne suis pas sûr que ce soit un impact significatif.
On verra. Puis peut-être hein, que ce quart de finale se jouera au pénalty. Hein. On a eu des séances de pénalty avec le match notamment entre Porto et Arsenal, qui était assez sympathique à suivre. Il y avait également la séance de péno entre... Il n'y avait pas une autre séance. Alors, à moins que je. Non, il y a eu deux séances de péno. Il y en a une qui c'était contre.
Atlético.
Atlético de Madrid.
Atlético Inter et Arsenal.
Inter et. Normalement, quand il y a une séance de péno, tu peux penser à l'Atlético direct.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ou, bah voilà, la tête que ça avait joué de recevoir l'Inter au retour. On se souvient avec les 10 dernières minutes folles hein, d'Atlético de Madrid qui avait un peu renversé tout en 8e de finale retour. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour donc cette émission un peu preview avant la double confrontation en quart de finale face au FC Barcelone. Je voulais te remercier, Elton, d'avoir été avec nous pendant un petit peu plus d'une heure. Merci d'avoir pris le temps dans cette semaine de trêve internationale et donc de repos pour toi aussi, hein, de toutes ces émissions Winamax, Club des 5, Eurosport et After. Voilà, merci d'avoir pris un peu de temps avec nous. Et puis, peut-être qu'on se reverra pour débriefer le retour. Peut-être si t'es dispo. Mais je sais que t'es beaucoup sollicité, donc... On verra ça, bien sûr. Mais merci.
Voilà, ce soir, j'ai juste l'équipe de France face au Chili. Après, ça devrait être bon. Ah non, il y a encore émission demain. C'est vrai.
De toute façon, vous pouvez pas le louper hein, sur les différents médias, différentes plateformes. Ouais. Vous voyez tout le temps. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires hein, qui nous ont dit qu'ils étaient très contents de te voir avec nous. Ils ont dit le fit Yacine Elton nous plaît, etc. On veut alors il y a Tri0 qui nous dit on veut un prono d'Elton à la fin. Alors je te pose la question.
Non. On était bien, on a passé une très bonne émission.
En plus, franchement, alors c'est pas pour le défendre, mais on est quand même à 2 semaines du match et il y a encore des matchs. Enfin, tu sais pas les équipes qui vont, les joueurs qui vont être disponibles.
Exactement.
Ça joue un peu aussi. Si le match aurait été, si le match avait été ce soir.
Ouais.
Si le match avait été ce soir ou samedi, je ne l'aurais pas laissé. Mais là, c'est vrai, dans 15 jours, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Moi, Yacine, je cite les commentaires dans le chat. Hein. Je ne fais que…
Les facteurs Pedri, Frenkie, De Jong sont trop importants. Enfin, on parle théoriquement des deux cerveaux du Barça.
Donc, tu ne te mouilles pas, quoi.
Hein ?
Donc, tu ne te mouilles pas, quoi.
Non, je peux faire hypothermie tout ça.
Bon bah voilà, vous n'aurez pas de pronos de... Alors, il y en a un
par
qui...
Par contre, vous pouvez aller...
Ouais, vas-y.
Vous pouvez aller sur... vous avez son arrobas sur X, sur Twitter. La veille du match, vous pouvez aller sur Twitter lui demander son pronostic.
De toute façon, les gens le sauront. Les gens le savent.
Et si vous voulez suivre Elton, c'est pas déjà fait. Vous voyez, il y a nos arrobas, il y a nos noms Twitter. Hein, donc voilà, Elton Mock pour Elton Mukolo sur Twitter. Bon voilà, vous connaissez celui de Yacine déjà, le mien également. Donc voilà, vous pouvez aller le suivre et vous aurez tous les avis d'Elton sur cette double confrontation et sur en général le foot, puisque tu regardes énormément de matchs, Elton.
Ça m'arrive, ouais.
Ça t'arrive de temps en temps.
Ouais.
Yacine.
Ouais, vite fait. Oui. Je voulais juste faire un petit message parce que. On m'en a parlé, j'avais oublié de le faire la semaine dernière. C'était juste rendre hommage à un petit jeune qui jouait, qui était U13 et qui est décédé sur un terrain de foot dans Lyon. Donc un match entre Sens et l'EF11. Et bah voilà, lui rendre hommage parce que c'est toujours triste quand quand un enfant, parce qu'à 13 ans t'as un enfant, décède sur un terrain de foot. Voilà, en plus apparemment c'était aussi un supporter du PSG. Donc voilà, c'était lui rendre hommage, voilà, qu'il repose en paix et que bah, soutien à sa famille, etc. Parce que c'est compliqué au club aussi, parce que je pense qu'à cet âge-là, quand tu perds un coéquipier sur le terrain, en plus, alors déjà perdre un coéquipier à cet âge-là, c'est dur, mais le voir partir sur un terrain pendant un match, ça doit être très dur à vivre pour les jeunes, voilà. Donc, il faut beaucoup de courage. Donc voilà, je voulais juste le rendre hommage.
Eh ben, t'as raison, on rend hommage, ça sert aussi à ça le podcast, on rend hommage à toutes ces familles, on pense très fort à eux. Je vous remercie encore Yacine, merci beaucoup Elton d'avoir été avec nous et puis on se donne rendez-vous. Donc à bientôt pour débriefer, ça sera le prochain match, ça sera Marseille-Paris-Saint-Germain lundi prochain avec la formule d'abonnement qui va commencer, on vous en reparlera évidemment. Il y a plein de choses qui arrivent sur Paris Analytics. Merci à tous et bonne journée. Ciao.
Bonne journée.